Bonjour David, bonjour à tous. Cholet sous le choc. Hier, le groupe Michelin a annoncé la fermeture pure et simple de son usine qui emploie près d'un millier de salariés. Les dépôts sauvages en bocage bressuré traqués par des caméras de vidéosurveillance. Nouvelle arme de l'agglo de B. Le nouveau recteur de l'académie de Poitiers en Deux-Sèvres hier après-midi. Une visite à Niort sur le thème des savoirs fondamentaux. Le projet de reconversion de la piscine de Molion fait l'objet d'un concours d'architectes. Il se déclinera de plusieurs manières. La programmation du 3e festival de l'humour de Nueil-les-Aubiers dévoilée. Il aura lieu les 7, 8 et 9 mars 2025. Et puis, le match de 7e tour de la Coupe de France de football entre Bressuire et les Girondins de Bordeaux aura lieu le 17 novembre. Reste à savoir si le public pourra y assister. Quant à la météo, la grisaille sera persistante cet après-midi, même si quelques trouées ne seront pas exclues. C'est un véritable séisme donc à Cholet. Michelin, qui emploie près de 1000 salariés, a donc annoncé hier la fermeture de l'usine après 54 ans d'activité. Le groupe met en cause l'effondrement des ventes des pneus pour camions et camionnettes depuis plusieurs années en raison de la concurrence étrangère. Une véritable claque pour les salariés, comme nous le confirme Nicolas Robert, délégué syndical Sud, lui qui a connu la fermeture, une fermeture similaire en 2019 à La Roche-sur-Yon.
C'est un choc, hein, c'est un choc et puis de la stupeur. Choc parce que c'est dans une entreprise comme ça, on s'attend jamais forcément à ce type de décision. Et la stupeur de voir qu'on ferme le site au complet à Cholet. Tout le monde s'attendait à un plan éventuel de suppression d'emplois, mais certainement pas à une fermeture complète du site. La direction a dit qu'ils avaient recherché des solutions, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les solutions, une chose est sûre, ils les ont pas cherchées avec les représentants du personnel. Si on avait été mis dans la boucle, on ne serait peut-être pas arrivé à ces solutions-là. Ça, c'est sûr.
Je crois que vous avez connu déjà la fermeture de La Roche-sur-Yon.
C'est ça, avec le même discours. Les concurrents chinois qui sont là, qui nous grignotent, en fait, on nous resserre à chaque fois la même soupe. Donc, c'est difficile à encaisser quand même. Quand on l'entend une fois, admettons, ok, mais deux fois à 5 ans d'intervalle, dans un grand groupe comme ça, on n'est pas capable d'anticiper les choses, c'est pas entendable.
Le groupe a promis un accompagnement de chacun des salariés, vous y croyez ?
Il y a de belles déclarations d'intention. Maintenant, il faut pas que les intentions, ça reste que des intentions, il va falloir le prouver sur le papier et pas le faire comme on fait d'habitude en manipulant des chiffres. Hein. Parce que comme vous le disiez, je viens de La Roche-sur-Yon, j'ai lu il y a pas très très longtemps un communiqué de la préfecture de la Vendée qui annonçait qu'on avait recréé 635 emplois sur le bassin d'emploi qui avait été impacté par la fermeture du site. Donc c'est très bien. Mais sur ces 635 emplois, il y a combien de salariés Michelin qui ont été reclassés là-dedans ?
Nicolas Robert, délégué syndical Sud chez Michelin Cholet, joint par Fabien Gazot. Le groupe a indiqué hier que la fermeture de l'usine interviendrait au plus tard début 2026. Autre réaction, celle du maire de Cholet, Gilles Bourdoulex.
Michelin était une entreprise que je qualifierais d'emblématique parce qu'elle était représentative de la réindustrialisation du Choletais au moment où les secteurs du textile et de la chaussure étaient en grande difficulté il y a maintenant un peu plus de 50 ans. Et puis il y a le constat des méthodes déplorables du groupe Michelin. Pendant longtemps, Michelin avait été le bel exemple du capitalisme familial et qu'il était devenu le triste exemple du capitalisme voyou. Alors déjà, il faut, je crois, se battre avec les salariés pour que Michelin leur donne des conditions correctes de sortie. Il faut accompagner. Nous, on va mettre en place un certain nombre de choses pour essayer d'accompagner les salariés pour retrouver un travail. Alors, la problématique, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver certains emplois. Alors, on sait qu'on a un bassin d'emploi qui a un faible taux de chômage. On est autour de 4,5. Les entreprises recherchent des salariés. Après, il faut aussi que les conditions dans lesquelles seraient recrutés les ex-Michelin soient les mêmes que les conditions qu'ils avaient dans leur travail chez Michelin. Et puis l'autre enjeu, c'est la réindustrialisation du site. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la présidente du conseil régional hier soir pour regarder ensemble comment on peut faire pression pour essayer de faire venir une nouvelle entreprise. On a quand même un site intéressant, hein. Il y a 40 hectares, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont encore utilisables. Donc il peut y avoir des opportunités, mais ça n'enlève pas le drame que constitue la fin de l'usine Michelin à Cholet.
Le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, l'arrêt programmé de l'usine choletaise a des répercussions bien au-delà des frontières des Mauges. Nombreux sont notamment les Nord-de-Sévriens à y travailler ou y avoir travailler. Rajoutons que le site de Vannes, dans le Morbihan, est aussi concerné par la fermeture de leur usine. Au total, plus de 1250 salariés vont perdre leur travail. L'agglomération du Bocage Bressuré passe à la vitesse supérieure. Si les actions de prévention et de sensibilisation restent d'actualité dans la lutte contre les dépôts sauvages, l'Aglo de B va compléter ce dispositif par l'installation de caméras mobiles sur une trentaine de points de collecte de déchets. Ces caméras doivent permettre d'identifier de jour comme de nuit les contrevenants. Amende dissuasive à la clé. En effet, la loi AGEC permet désormais aux maires de disposer d'un nouveau pouvoir de sanction, leur donnant la possibilité d'utiliser la vidéosurveillance pour constater des infractions. Le vice-président en charge du dossier, Yves Chouteau, au micro Colline de Jacqueline Pinon.
En effet, c'est de passer à l'étape donc de surveillance avec une caméra qualifiée d'intelligente, puisque donc dotée donc d'intelligence artificielle pour permettre d'identifier les contrevenants.
Très clair. Avec ces caméras, vous pourrez mettre des amendes.
C'est un dispositif mis en place conjointement mairie et aglo. On est quand même dans la compétence aussi de pouvoir de police du maire et c'est lui qui a accès au service d'immatriculation des véhicules. Donc, dans ce cadre-là, déjà plus de 20 collectivités utilisent ce dispositif et sont toutes unanimes sur l'efficacité du dispositif sur la réduction de ces comportements indélicat. Disons que depuis le début, donc on s'est attaché à communiquer, à accompagner, à rendre visite à une partie de la population. C'est quasiment 3000 foyers qui sont visités tous les ans. Il y a quand même des nouvelles populations sur notre territoire en continu, donc faut accompagner. Mais on voit bien que c'est à peine suffisant.
Ça passe par la répression.
Appelons-le comme ça, sur la route, il y a des radars.
96 000 euros, dont 26 000 d'investissement dans le matériel. C'est le coût global de ce nouvel équipement que les élus comptent rentabiliser rapidement en verbalisant les 3 à 4 % de celles et ceux qui déposent leurs déchets au pied des containers plutôt que d'utiliser la carte d'accès. Cette méthode coercitive sera mise en place au premier trimestre 2025. Rappelons que jusqu'à maintenant, deux agents de la brigade verte de l'Aglo et des agents communaux interviennent chaque semaine pour ramasser les sacs de déchets abandonnés. 60 500 euros de frais de nettoyage ont ainsi été émis à l'encontre des auteurs de ces dépôts sauvages. 70% de ces factures ont été réglées. Hier soir, le conseil communautaire de l'Aglo de B a approuvé l'acquisition de ces caméras par une décision modificative sur le budget afin, je cite, de mettre en place tous les moyens pour juguler ces méfaits. Fin de citation. Le conseil municipal de Mauléon s'est penché en début de semaine sur le projet de reconversion de son centre aquatique avec un programme estimé à 850 000 euros hors taxes. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade du concours d'architectes. Le vainqueur sera désigné en mars 2025 par un jury composé d'élus, d'experts et d'habitants. Le site aura plusieurs vocations, comme nous le précise le maire Pierre-Yves Marolo.
D'abord, c'est de réaménager aussi les espaces camping-car. Aujourd'hui, on a deux petits espaces. On veut plutôt en faire un grand sur la partie en face, l'entrée de la mini-auderie. Ensuite, deuxième, c'est de réhabiliter des bâtiments qui sont plutôt en bon état et qu'on garde, évidemment, et les mettre à la disposition du club du groupement de jeunes de foot qui a plus de 200 licenciés et qui n'a pas de ses propres bâtiments. La troisième, c'est de réfléchir à des jeux, peut-être en utilisant d'ailleurs les bassins. On n'est pas sûr de les fermer, mais ça c'est l'architecte qui nous le dira. On a beaucoup de demandes au niveau des rollers, du skate, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Et puis le quatrième, c'est quand même de garder un îlot fraîcheur avec des plantations, mais aussi des espaces jeux pour les enfants à base d'eau justement. Et donc c'est dans cette optique-là que les cabinets d'architectes retenus vont devoir travailler.
Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon, lundi soir, au micro-colline de Laurent Guichetot. Le nouveau recteur de l'Académie de Poitiers, hier après-midi à l'école primaire Les Briseaux de Niort, pour y rencontrer les élèves et échanger avec les professeurs. L'apprentissage des savoirs fondamentaux, amorcé dès l'école maternelle, demeure l'objectif premier de l'école primaire. Frédéric Périssa.
La possibilité d'offrir à tous les élèves la réussite. Cette réussite scolaire, elle passe par la maîtrise des fondamentaux que sont le français, que sont les mathématiques. J'irai à cet effet dans les Deux-Sèvres, dans une grande section de maternelle, justement pour voir comment On travaille dès cet âge-là sur les mathématiques.
Le recteur de l'académie qui se dit aussi très vigilant sur le harcèlement scolaire, alors que se profile demain, jeudi, la journée nationale. Le cyberharcèlement est plus particulièrement visé.
Le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est très sensible, que ce soit pour les adultes qui ne le maîtrisent pas, mais également donc pour les élèves, pour nos jeunes. Et donc cette lutte contre le cyberharcèlement, c'est quelque chose de fondamental pour que nos jeunes puissent devenir des citoyens éclairés, faire la différence entre les fausses informations, entre les faits réels et les faits supposés. Donc c'est un travail sur lequel je souhaite également m'investir.
Frédéric Périssa, le nouveau recteur de l'Académie de Poitiers, en déplacement donc en Deux-Sèvres hier après-midi. La restructuration du collège Gérard-Philippe de Niort officiellement lancée. Le projet a pour objectif de créer de nouvelles surfaces, de relocaliser une partie des fonctionnalités existantes et d'en reconfigurer ou d'en créer d'autres. Montant de l'ensemble des travaux, 13 900 000 euros pour le département des Deux-Sèvres, dont une subvention de l'État au titre du fonds vert d'un million d'euros. Après plusieurs années de préparation, le centre hospitalier de Cholet démarre en ce début novembre le chantier d'extension et de rénovation du service des urgences. Ces travaux ont été rendus nécessaires par la hausse continue et importante du nombre de passages et d'hospitalisations depuis des années. Les locaux historiques étant devenus trop exigus pour permettre d'accueillir dans de bonnes conditions les usagers, particulièrement en période hivernale. Le nouveau service sera terminé dans 2 voire 3 ans et permettra de disposer de 25 box contre 12 actuellement et avec 50% de surface supplémentaire. Le budget de l'opération avoisine les 11 millions d'euros. Cet important chantier prenant place dans une zone de passage fréquentée de l'établissement, des désagréments seront malheureusement à prévoir pour les mois à venir. Le Festival de l'Humour en Val-de-Scie a dévoilé sa programmation. Prenez date les 7, 8 et 9 mars à la salle Belle Arrivée. Pour cette troisième édition, la municipalité ambitionne de monter en puissance. Elle programme ainsi des artistes confirmés et émergents avec l'appui d'Alexis Le Rossignol qui a grandi dans le bocage avant de faire carrière et qui fait jouer son réseau au moment de composer l'affiche. Serge Bouju, le maire de Neuilly-les-Aubiers.
Alexis, c'est évidemment notre personne ressource quand il s'agit d'imaginer des artistes dans cette nouvelle édition du festival, la troisième édition qui aura lieu les 7, 8 et 9 mars prochains. Et il est précieux pour nous parce que c'est évidemment une personne qui s'investit pleinement dans sa commune de naissance, j'allais dire, et qui peut nous apporter bien tous ses contacts. Et puis il nous apporte aussi son humour puisqu'il sera encore présent avec son nouveau spectacle à Neuilly-les-Aubiers.
Alexis Le Rossignol, ça sera le samedi soir. Le vendredi soir, c'est Magali Ripoll qui occupera la scène dans un show fait d'humour et de musique. Le dimanche, place à Thomas Marty, lui qui compte des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Le Festival de l'Humour en Val-de-Scie donne aussi sa chance aux talents émergents. Un comédie club sera ainsi programmé le samedi à 17h avec Julose, Kevin Robin, Maureen Louis et Lala Sagna. Le Festival de l'Humour en Val-de-Scie sera donc... Notez les dates, hein, les 7, 8 et 9 mars à Neuilly-les-Aubiers. La billetterie sera ouverte début décembre avec un pass festival à 54 euros, des spectacles allant de 18 à 24 euros et un comédie club donc de 8 à 12 euros. L'actualité sportive en cap de victoire ce soir face à Anvers. Cholet Basket sera qualifié pour le prochain tour de la FIBA Europe Cup. On a évoqué ici même la possibilité d'un retour de Boris Dalot pour pallier l'absence de TJ Campbell. Le point presse d'hier n'a pas permis de confirmer cette hypothèse qui a donc désormais du plomb dans l'aile. Cholet Basket face aux Belges d'Anvers ce soir à la Meilleraie. Match à suivre bien entendu en direct sur Colline. Coup d'envoi à 20h30. En football, la rencontre entre Bressuire et les Girondins de Bordeaux en Coupe de France aura lieu le dimanche 17 novembre à 17h. Le FCB a communiqué en ce sens, soulignant que la rencontre serait diffusée sur France 3. Reste à savoir maintenant si le public pourra assister au match au stade Métayer, car depuis quelques mois, les rencontres des Girondins génèrent des restrictions du fait des tensions autour du club bordelais relégué en National 2. Toujours est-il que la maire de Bressuire soutient l'idée d'une belle fête du football avec des supporters présents au stade. Des réunions sont programmées d'ailleurs en ce milieu de semaine avec les autorités. Emmanuel Ménard, au micro-colline de Fabien Gazot.
Nous allons nous organiser en conséquence. Nous avons donc une réunion mercredi avec Madame la sous-préfète et puis les services de gendarmerie, de police et les services de la ville avec le club, bien évidemment. Et puis donc, il y a une réunion le jeudi, oui, avec au niveau de la préfecture, en fait, avec tout ce qui concerne la sécurité. Et là, nous pourrons amener nos arguments.
L'enjeu, c'est la présence du public. On peut espérer une belle affluence sur ce type d'affiche.
Alors, nous pouvons accueillir jusqu'à 3000 personnes, à peu près au niveau du stade. Alors maintenant, est-ce que le public bressuirait répondra bien évidemment présent. L'enjeu est surtout, est-ce que les Girondins seront autorisés à venir? Comment nous allons organiser la billetterie pour que ce soit bien sur Bressuire? Voilà, il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en place aussi pour garantir une sécurité, mais que le public soit présent et que les Bressuirais et les Boquins assistent à ce beau match.
Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, à propos de cette rencontre entre le FCB et les Girondins de Bordeaux pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Match qui aura lieu, je vous rappelle, le dimanche 17 novembre à 17h.